Voilà, c'est parti. Tov, alors Erev Tov, les Koulam, Erev Tov, et on revient donc dans notre série sur les grands personnages du judaïsme de ces 100-150 dernières années qui ont tout simplement modelé notre identité et qui sont pour nous des véritables lumières. Alors, je vais vous dire, j'ai eu énormément de pression de la part du monde entier. Pourquoi n'y a-t-il pas de rabbins marocains dans le groupe des rabbins enseignés? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Alors, je tiens à dire que j'ai pas encore eu aucun Algérien qui s'est plaint, qui a dit pourquoi on n'a pas de rabbin algérien. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas de rabbin les Algériens, ça c'est un autre problème. Non, c'est pas vrai, vous inquiétez pas, nous aurons une spéciale Manitou. Voilà, c'est s'il y a bien un rabbin algérien qui mérite qu'on parle de lui, eh bien, c'est évidemment Manitou. Je tiens à rassurer nos amis marocains, nous aurons une étude marocaine en arabe. Non, faut pas exagérer. Mais nous aurons une étude marocaine très très bientôt. Je n'arrive tout simplement pas à me décider de qui on va parler. J'hésite pour le moment entre trois personnages. Vous allez me dire, t'as qu'à faire les trois. Oui, d'accord, mais on va faire des roulements, on va revenir à un moment donné. Mais je me demande, est-ce que on va parler de Baba Salé, est-ce qu'on parle de Rabbi Shalom, ou est-ce qu'on parle de Baal HaTzuv Dvash, qui est plus ancien et qui accompagne le renouveau en Israël au 19e siècle. Bon, ça c'est un débat pour moi-même, mais vous inquiétez pas, le rabbin marocain arrive, le marocain nouveau va bientôt arriver. Mais
Il y avait une correspondance extraordinaire entre le Baal Shem Tov et le Or Haïm Kadosh, mais là on n'est plus.
Ah ouais, non, là c'est beaucoup plus vieux.
On est plus loin.
Ouais.
On est plus dans les contemporains.
Ouais, alors c'est ça, justement. Là, il y a quelqu'un qui me dit sur YouTube, il me dit c'est la Askara de Rabbi Nachman de Breslav. Et je ne l'ai pas zappé, non, je ne l'ai pas zappé. Il y a pour l'instant une volonté. Ah, tu dis c'est la Askara du Chida. Mais tu vas pas me faire maintenant la liste de tous les rabbins qu'on n'a pas fait. On n'en a fait que 6. Il y en a plein d'autres, des rabbins. Mais je veux dire.
Et on demande des contemporains.
Ouais, voilà. La volonté ici dans le cours, c'est de faire des contemporains. C'est-à-dire de pas aller avant le 19e siècle. C'est-à-dire, histoire de voir comment est-ce qu'ils ont raccompagné le peuple juif en terre d'Israël. Une fois qu'on aura fait le tour, alors on pourra peut-être imaginer d'aller un petit peu plus loin dans le temps. Mais là, l'objectif, c'est eux. Et je vais te dire mieux que ça. Plus on va aller loin dans le temps, plus ce sont des figures qui sont, alors, méconnues, certes, mais qui sont des figures quand même connues. C'est-à-dire que quand tu vas remonter dans les années 1700, dans les années 1600, eh ben, je vais pas te sortir un rabbin de mon chapeau que personne ne connaît, parce que si personne ne le connaît, c'est qu'il y a une raison. Alors que là, les rabbins du 19e et du 20e siècle, eh bien, très souvent, on ne les connaît pas parce que il y a eu un agenda très clairement établi par certaines personnes de dire que certains rabbins étaient des grands rabbins et d'autres moyens. Je vais te dire mieux que ça, et je suis désolé de prendre cette petite introduction ce soir, mais j'étais, il n'y a pas si longtemps, avant le Seger, évidemment, j'étais à un Shalom Zohar, un Shalom Zahar, un Shabbat, donc avant la Brit Mila. Et quelqu'un qui m'a demandé, j'ai vu ta nouvelle série de cours sur les rabbins, machin, c'est intéressant. J'ai pas encore vu d'épisode au complet, mais tu traites de qui? Alors j'ai dit, bah on a fait, je crois qu'on avait fait 4 à l'époque, 4, ouais 4. Alors j'ai dit, bah tu sais, on a fait Reb Shlomo, on a fait Rabbi Shlomo Goren, on a fait le Rav Getz, on a fait le Rav Nazir. Et il me dit, ah oui, que des sionistes. Et j'ai répondu, Matarotse Mimeni, qu'est-ce que tu me veux? J'ai fait les grands. C'est tout, qu'est-ce que je te dise? Alors il me dit, non, là, t'exagères. Et la vérité, c'est que, ben non, j'exagère pas. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a voulu occulter des gens qu'on va laisser la falsification de l'histoire arriver. On a parlé du Rav Getz, Rosh Yeshiva Tamekubalim Betel. Quoi? Il a pas sa place dans le groupe? On a parlé de Rabbi Shlomo Goren, Rav Arashi l'Israël, quoi, il a pas sa place dans les grands. On a parlé du Rav Yitzhak Nissim Arishon Letzion, quoi, il a pas sa place dans le groupe. Donc, en malasot. Et là, ce soir, eh ben, alors là, je vais vous le dire. ce soir, c'est du lourd. Ce soir, c'est du lourd, je le dis avant chaque cours. Mais ce soir, c'est du lourd parce que c'est d'autant plus du lourd que là, pour le coup, personne ne le connaît. Pourquoi personne ne le connaît? Eh bien, parce que, comme d'habitude, on veut occulter certaines personnes, mais parce qu'en plus de ça, à son époque, et il faudra bien le dire, il a été dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Il a été dans l'ombre de quelqu'un d'autre bien malgré lui, parce que l'autre en question n'a jamais eu envie de lui faire de l'ombre. Mais il était le contemporain, et on va le voir à la fin de notre étude, il était le contemporain et l'alter ego du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kouk. Donc, quand tu es à côté du Rav Kouk, c'est un peu compliqué. Mais on va voir que le Rav Yaakov Meir, c'est, mais laisse tomber d'abord le géant dans la Torah, mais au-delà de cela, je veux dire, le mec, il était, et c'est sûr, comme on dit aujourd'hui, ADHD. C'est-à-dire que le mec, je peux t'assurer qu'il était hyperactif. Ah là 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 là, tu vas voir, il s'arrête pas, le bonhomme. Alors, les amis, allons-y. Allons-y, rentrons directement dans le vif du sujet. Ce soir, de la Grèce à la grâce, à Rav Yaakov Meir. Alors, le Rav Yaakov Meir, il naît en 1856, Rabotai. Il mourra en 1939. Donc, il ne va pas voir la création de l'État d'Israël, mais il en est un des précurseurs. Il fait partie de ces gens-là qui vont donner le ton de ce qui va devenir l'État d'Israël. Alors, essayons de comprendre de quoi on parle. Tout d'abord, j'ai dit de la Grèce à la grâce. Car le Rav Yitzhak Meir, Rav Yaakov Meir, eh bien, il vient d'une famille des Megourachés Sfarad. C'est-à-dire que sa famille, à l'origine, vient d'Espagne. Et comme beaucoup d'entre eux, après le Guérouche Sfarad, après l'expulsion des Juifs d'Espagne, eh bien, il a été, la famille s'est installée en Grèce. C'était une époque où la Grèce acceptait les Juifs, et donc ils se sont installés en Grèce et ont prospéré là-bas. Le père de Rav Yaakov Meir s'appelle Kalev. Mais Kalev, Baruch Hashem, est quelqu'un qui va bien réussir dans sa vie, au niveau financier, Baruch Hashem, il n'y a pas de problème. Et quand on lui demande, est-ce qu'il va rester toute sa vie à Rhodes, parce qu'il est à Rhodes, eh bien la réponse est très claire, il dit absolument pas. Il n'y a absolument pas question que je reste ici. Nous sommes en Grèce parce que nous avons été expulsés d'Espagne. Nous sommes arrivés en Espagne parce que nous avons été expulsés de Babylone. Nous sommes arrivés à Babylone parce que nous avons été expulsés de Jérusalem. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faudra rentrer à Jérusalem. Et si vous voulez, c'est dans cette ambiance-là que le petit Yaakov va grandir. Alors lui, Yaakov Meir, ne naît pas à Rhodes, parce que les paroles de Kalev ne sont pas des paroles en l'air. Effectivement, il va décider de partir avec sa femme tout seul, ils n'ont pas encore d'enfants, ils partent à Jérusalem. Et c'est ici, à Jérusalem, que le petit Yaakov va naître. Il naît à Jérusalem et en 1856, donc comme j'ai dit, il naît à Jérusalem, et donc il va s'imprégner de la Torah de son père, qui est un Talmid Chacham, qui est un commerçant, mais qui est un Talmid Chacham énorme, qui a gardé avec lui toute la Torah de Yehudé Yavan, et c'est une Torah, on va voir, qui est très particulière, c'est une Torah qui est en complète parallèle avec la science. Les Yehudé Yavan sont des scientifiques, c'est-à-dire qu'ils veulent s'intéresser à tout. On a parlé la semaine dernière du Rav Kapar, qui disait qu'il était intéressé par toutes les choses. Dans les Juifs de Grèce, il y avait une véritable volonté de réunir Achochmot et Torah. Et donc c'est dans cette ambiance-là que le petit Yaakov va grandir. Mais le premier grand tournant de sa vie se passe quand il a 8 ans. Il a 8 ans, nous sommes donc, eh bien, vous avez compris, on est en 1864, il a 8 ans, et à ce moment-là, il se passe quelque chose. C'est un simple après-midi. Il ne se passe rien de particulier, et pourtant, sa maman, lui dit, Yaakov, est-ce que tu veux m'accompagner? Je vais au Kotel. Je vais prier au Kotel. Maintenant, attention, que les choses soient bien claires. On parle du Kotel de 1860-64. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas le Kotel qu'on a aujourd'hui. Rechavat à Kotel, l'esplanade du Kotel n'a rien d'une esplanade. C'est un espèce de petit couloir qui fait 3,5 mètres de large et qui fait à peu près une cinquantaine, même pas un peu moins, une quarantaine de mètres de long. C'est un petit couloir, le Kotel, à l'époque. C'est un couloir, lorsque les Juifs vont y prier, ils sont des fois pas vraiment, enfin on les remarque pas trop, et des fois, eh bien, les Arabes qui sont là leur jettent toutes sortes de projectiles. On est loin du Kotel que nous on connaît aujourd'hui. Mais lorsque le petit Yaakov arrive au Kotel pour la première fois, eh bien il y voit un spectacle incroyable qui va l'accompagner toute sa vie. Et je pense, et sans vouloir m'avancer, je connais un petit peu les responsables de ce groupe, je connais un petit peu la communauté de Givat Shmuel, et je connais un petit peu l'ambiance. C'est exactement de ça qu'on essaie de parler, nous. Le Rav Yaakov Meir arrive au Kotel et il voit un spectacle incroyable. Quel est son spectacle? Eh bien, il voit des chassidim, il voit des litaïm, il voit des juifs de Bagdad, il voit des juifs du Yémen. Ils sont tous... Il n'y a pas de mechitsa. Il n'y a pas de place pour mettre une méritza de toute façon. Et il n'y a certainement pas la place pour faire plein de minyanim. Tout le monde prie ensemble. Et raconte, le Rav Yaakov, il raconte que lorsqu'il arrive et qu'il entend le yiddish des chassidim, qu'il entend le hongrois des hongrois, lorsqu'il entend l'arabe des gens de Bagdad, qu'il entend le judéo-arabe des gens qui viennent plus d'Afrique du Nord, quand il entend les Yéménites parler et quand tous se mettent à prier, chacun avec leur accent, il dit, on avait véritablement une mélodie d'une harmonie incroyable qui montait jusqu'au ciel. Il ne pouvait en être autrement, c'est ce qu'il écrira dans son journal, dans un dans ses écrits. Il dira, il ne pouvait en être autrement. Il est évident que c'est exactement comme ça qu'on priait au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, il n'y avait pas un Noussar. Au Beth Amikdash, on ne priait pas Noussar Sfard, Sfarad, Ashkenaz. Au Beth Amikdash, il y avait la tribu de Asher qui priait avec son Noussar, la tribu de Zvouloun qui priait avec son Noussar, avec son accent, et ainsi de suite. 12 tribus qui se mêlaient ensemble pour arriver jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Ça va être un tournant dans sa vie, car le Rav Yaakov Meir cherchera et réussira énormément dans son entreprise à réunir les différentes communautés juives. Vous allez me dire, c'est un projet complètement fou. Comment réussir à réunir les communautés juives dispersées? Eh bien, on va voir, mais le Rav Yaakov Meir est peut-être un de ceux qui l'a le plus réussi. Alors, dès son plus jeune âge, son père évidemment veut qu'il étudie la Torah, et très vite, il va devenir un des élèves à 16 ans de la Yeshivat à Mekoubalim Betel. Donc nous, on a parlé du Rav Getz, qui en est devenu le Rosh Yeshiva plus tard. Là, il est l'élève et le Meshamesh, le Shamash, le Meshamesh du Rosh Yeshiva à Mekoubalim Betel, à savoir le Rav Uziel. Alors pas le Rav Chai Uziel de plus tard, non, c'est un autre Rav Uziel. Il grandit là-bas. Il grandit là-bas, vous comprenez que si à 16 ans, le bonhomme, il a été accepté dans la Yeshivat HaMekoubalim, bon, t'as compris qu'on parle pas d'un petit joueur, a priori. Et effectivement, on va pas parler du tout d'un petit joueur. Mais les événements s'enchaînent. Les événements s'enchaînent, il a pas le temps, il a pas le temps de souffler. Alors quoi, je vais te dire qu'il a reçu sa smicha la Rabbanout quand il avait 17 ans. Bessader, alors je te l'ai dit, ok? Nachon, t'as compris que c'était un tueur en Torah. Bessader! Mais il n'a pas le temps, il n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Il y a toujours quelque chose à construire. J'aurais pu appeler ce cours à Rav Yaakov Meir le constructeur. Parce que c'est ce qu'il va faire toute sa vie. Il construit des trucs. Alors, quelle est la première chose qu'il va construire? Nous sommes en 1878. En 1878, eh bien, vous avez compris, il a tout simplement 22 ans. Il a 22 ans et arrive devant sa porte en pleine nuit un de ses élèves, Yosef. Et Yosef vient toquer chez lui en pleine nuit et lui dit « Arav, Arav, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Arav, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'excites ?» Et en fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Yosef vient de découvrir dans la vieille ville de Jérusalem, dans une poubelle, deux jeunes enfants de 8 et 9 ans qui habitent là-bas. Ils sont tous les deux orphelins et ils n'ont pas de toit, ils n'ont pas à où manger, ils n'ont rien du tout. Ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas mangé. Ils sont très faibles. Il vient voir le Rav Yaakov Meir en disant « Il faut faire quelque chose, c'est pas possible. » Maintenant, comprenez-moi bien. Un autre rabbin, il aurait dit « C'est terrible, on va essayer de trouver un peu de tzedaka, on va essayer de leur trouver un truc. » Rav Yaakov Baruch, il va donner d'abord de son argent pour, là, sur le moment, leur donner à manger, leur donner un toit, il les amène chez lui, ils vont dormir chez lui, mais ça adhère. Mais le lendemain matin, il fait appeler ce fameux Yosef, un de ses élèves, et il dit « Bon, j'ai bien réfléchi, on ne peut pas laisser cela en place. » Et dès le lendemain matin, le Rav Yaakov Meir entreprend de construire le premier Bet Yetomim de Jérusalem, le premier orphelinat de Jérusalem. Le fameux orphelinat qui va être retapé, reconstruit, truc par Rothschild, plus tard, c'est le Rav Yaakov Meir. D'abord, Rabbi Yaakov Meir, le premier orphelinat, il est impensable que des enfants à Jérusalem, alors que Zecharia Navi, c'est comme ça qu'il l'écrit, il dit alors que le prophète Zacharie nous dit que viendra un temps où les enfants et les jeunes filles rejoueront et courront dans les rues de Jérusalem. Et bien là, les enfants ne peuvent pas courir dans les rues de Jérusalem parce qu'ils n'ont pas de quoi manger et qu'ils n'ont pas de toit. On leur donnera un toit. Il crée le Bet Yetomim de Yerushalayim. Il n'a que 22 ans. Un an plus tard, parce que il s'embêtait beaucoup, il se dit, bon ben, Bet Yetomim, c'est pas mal, mais nous sommes à ce moment-là en 1879 et il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de soins. Maintenant, vous allez me dire, bah oui, mais il y a toujours eu des gens qui ont besoin de soins. Oui, nachon. Mais sauf que jusqu'à présent, le seul endroit où on pouvait se faire soigner, c'était dans les hôpitaux de l'Empire ottoman. Et à chaque fois, il y a des problèmes. Hey, pour la cacheroute, pour le Shabbat. Et Rabbi Yaakov, il dit, bon, bah, pas de problème. On va construire un hôpital. Yalla! Vous avez entendu parler de Misgav Ladar? L'hôpital de Jérusalem de Misgav Ladar, le premier hôpital de Jérusalem, qui avant d'être à Katamon, était dans la vieille ville de Jérusalem. Boum! Rabbi Yaakov Meir. Il, alors, pas tout seul, hein, évidemment, mais c'est lui qui en est le Vad à Meyassed. C'est lui qui est Yoshev Rosh Avad, de ceux qui vont, des Chèvres, qui vont mettre en place l'hôpital de Misgav Ladar. Ah, bataille, vous comprenez de quoi on parle? Il n'a que 23 ans et il s'arrête pas. Il est connu. Il a commencé à se faire connaître. Un, par sa grandeur de Torah, mais il s'est fait connaître également par les autorités. Pourquoi il s'est fait connaître par les autorités? Parce que, et c'est quelque chose que personne n'arrive à expliquer, eh bien, il est reconnu parmi toute la Eda Asfaradite de Jérusalem comme étant un des dirigeants de la Eda Asfaradite. Donc, les autorités ottomanes savent que s'il faut faire quelque chose avec les Juifs de Jérusalem, eh bien, il faut aller voir le Rav Yaakov Meir. Et donc, eh bien, les choses vont arriver en 1881. En 1881, donc vous avez fait votre calcul, il a 25 ans, il va se passer une histoire assez tragique, enfin qui aurait pu être tragique s'il n'y avait pas eu Rabbi Yaakov Meir. En 1881, va arriver un groupe de Olim Hadashim de Perse. Des Olim Hadashim de Perse qui arrivent sans rien. Ils sont sans le sou, ils n'ont rien du tout. C'est pas les premiers juifs qui arrivent sans rien. Et ils se font intégrer dans la communauté, comme d'habitude. Seulement là, la direction ottomane, elle dit « Stop, ça suffit !» Des juifs, déjà qu'on n'est pas très content qu'ils arrivent en masse, mais en plus des juifs qui ont rien, qui vont être un poids pour la société plus qu'autre chose, hors de question qu'ils restent. Et l'Empire ottoman va ordonner l'expulsion de ces centaines de juifs de Perse qui viennent d'arriver. Rav Yaakov Meir arrive, dès qu'on lui apprend l'ordre d'expulsion, il arrive immédiatement chez le pacha, le gouverneur ottoman à Jérusalem, et il va essayer de lui faire changer d'avis. Rien n'y fait. Rien n'y fait. Le gouverneur lui dit, je vous respecte beaucoup, monsieur le rabbin, mais il te dira non. À ce moment-là, eh bien très bien, puisque c'est comme ça, on va prendre une décision. Quelle décision ? Ben, c'est pas compliqué. On va agir dans le dos de nos amis ottomans. Ah bon ? Rabbi Yaakov va griller sa carte devant le pacha. Donc il va envoyer un autre juif qui est Mekourav, qui travaille avec le pacha. Il lui dit, écoute, s'il te plaît, demande au pacha de me donner juste une permission d'accompagner ces juifs jusqu'à Yafo. De Jérusalem à Yafo pour les mettre dans le bateau, que je puisse au moins les accompagner, ils me respectent, ça sera moins dur pour eux. Et effectivement, il va réussir à convaincre le pacha ottoman, ok, il veut les accompagner, bah ça me va. Très bien, la première partie du plan a été mise en place, on peut y aller. Effectivement, il y a une chayara, une caravane comme ça, de centaines de juifs qui partent la tête baissée de Jérusalem et qui vont vers Yafo. Pendant tout le chemin, maintenant, Yafo, Jérusalem, c'est Tel Aviv, Jérusalem, hein, c'est 1 heure en voiture, combien de temps ça prend à pied ? Allez, combien de temps ça prend à pied ? Non ? Vous ne vous rappelez pas de vos excursions ? Il y a combien de kilomètres entre Tel Aviv et Jérusalem ?
Ils le font à l'école tous les ans.
Combien de kilomètres entre Tel Aviv et Jérusalem ?
55.
Allez, 57. C'est quoi ? On coupe la poire en deux. Donc, 55 kilomètres, 60 kilomètres. Allez, on va dire qu'ils n'ont pas marché vite parce qu'ils n'étaient pas pressés de partir. Donc, ils doivent marcher quoi ? Ils font du 4 kilomètres à l'heure ?
Une journée.
Journée. Pendant tout le chemin, Rav Yaakov, il passe dans les rangs et leur dit, soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Arrivé juste devant Yafo, à l'entrée de la ville de Yafo, Rav Yaakov Meir met sa main dans sa veste, sort les billets, donne certains billets à certaines personnes bien placées. N'oubliez pas qu'on est dans l'Empire ottoman du 19e siècle, à savoir un Empire ottoman qui est en déchéance et où il y a un cruel manque d'argent pour les fonctionnaires de l'État. Tout marche au bakchich. Le Rav Yaakov Meir sait à qui graisser la patte. Il a donné à 3 personnes ce qu'il fallait pour que ces 3 personnes ne voient pas ce qui se passe. Et à ce moment-là, alors que le bateau les attend sur le quai, alors que les autorités ottomanes, les soldats ottomans sont là pour les récupérer, ils comprennent pas, ils n'arrivent pas. Parce qu'à l'entrée de la ville de Yafo, le mot avait été fait passer à tous les villages juifs avoisinants. Et lorsque le Rav Yaakov Meir a donné l'ordre de dispersion, yalla dispersion! Et tout le monde prend ses jambes à son cou et sont accueillis dans les villages juifs autour, qui les récupèrent et qui les cachent, et ils disparaissent. Et résultat des courses, ces juifs-là ne repartiront pas d'Israël, ils resteront en Israël et ils vont chacun être intégrés dans les différents villages où ils sont. Encore une fois, Rabbi Yaakov Meir, une fois qu'il a réussi à faire tant de choses, les rabbanim de Jérusalem commencent à se... Non seulement ils savent que c'est un grand dans la Torah, mais que c'est quelqu'un sur qui on peut tout à fait compter pour des missions importantes. Et il va être un des premiers... Attention, tiens-toi bien, Eli, c'est pour toi, c'est cadeau. Il va être un des premiers shadarim. Il a envoyé Shadar. Alors, Mazé Shadar. Shadar, ce sont les initiales Shluchei de Rabbanan. Il est l'envoyé de la communauté des rabbins de Jérusalem pour aller récupérer un petit peu de pépette. Hein, faut pas se mentir. Et il est envoyé dans la ville de Boukhara. Vous avez entendu parler des Boukharim ? Ben, il est envoyé là-bas. Au Tadjikistan. Et il part. Il part, mais attendez, Tadjikistan, on parle d'un mec qui vient de Grèce. Quel rapport ? Azov, quel rapport ? Rav Yaakov Meir. On est en 1882. C'est l'année de la première Aliyah. C'est l'année où vont arriver les premières vagues d'Aliyah. D'abord de Roumanie, du Yémen. Lui, il part à Boukhara. Ça va être un voyage énorme. Et le problème, c'est que dans le bateau qui va l'emmener, d'abord dans sa première étape, il va arriver en Russie. Sur le bateau, tous les juifs du bateau lui disent « Ata Rav Yaakov Meir ?» Il dit « Oui ». Il dit « C'est toi qui es l'envoyé pour aller à Boukhara ?» Il dit « Oui ». Tu sais que tu nous mets tous en danger ?» Il dit « Comment ça je vous mets en danger ?» Ben oui, tu as avec toi des lettres de Hamlatzot. Tu as les lettres signées par tous les grands rabbins de Jérusalem pour que les gens de Boukhara qui ne te connaissent pas, eh bien ils savent que tu es vraiment l'envoyé des rabbins de Jérusalem. Il dit « Ben oui ». Il dit « Ben voilà, tu te rends pas compte, là on va arriver en Russie. La Russie, c'est le pire ennemi de l'Empire Ottoman. Ils vont te voir avec des lettres provenant de l'Empire Ottoman, avec des demandes de donner de l'argent à l'Empire Ottoman. La Russie, elle va venir, elle va nous arrêter tous à cause de tes lettres. » Et là, Rav Yaakov Meir se lève et il dit « Leman Yerushalayim lo eshkot. Je ne me tairai point pour Jérusalem. » Il se lève, prend toutes ses lettres de recommandation et les jette à l'eau. Il dit « Je n'aurai pas les Hamlatzot, mais j'aurai que Pi Hashem Diber. J'aurai la voix de Dieu qui parlera à travers moi et ça ira. » Finalement, il arrive à Boukhara. Il vient et il dit « Bon, voilà, je suis l'envoyé des rabbins de Jérusalem. Les mecs, il semble-t-il, c'est pas le premier qui est tenté de leur prendre de l'argent. » Et donc, ils ont dit « Ouais, bon, hé, hein, on la connaît, hein, l'histoire, t'es le mec de Jérusalem. » Et il leur... Comment est-ce qu'il va les convaincre? Comment est-ce qu'il va les convaincre? Compliqué. Ben, je vais vous dire comment il va les convaincre. Il les convainc en leur décrivant les moindres recoins de la ville. Il va leur faire un siour virtuali, bezoum, de Jérusalem. Il leur dit... Il y a ce magasin-là, et à côté, il y a ce magasin-là. Et quand tu arrives dans la rue pour arriver vers le Kotel, alors il y a des marches, il y en a une qui est brisée. Et il leur raconte tout. Genre, c'est pas possible. C'est sûr, il habite là-bas. C'est sûr, il connaît Jérusalem par cœur. Et au moment où les gens, ils sont tous conquis, ils pleurent tous. Ils pleurent tous. Ils pleurent sans Boukhari, mais ils pleurent quand même. À ce moment-là, il y a une lettre qui arrive parce que les rabbins de Jérusalem ont renvoyé une lettre directement à Boukhara au cas où il ait perdu les lettres. Et donc, la lettre arrive et elle confirme eh bien, ce qu'il avait dit et ce que le fait que tout le monde était convaincu. Et il est reçu avec les honneurs, non seulement avec les honneurs, mais il va rester là-bas pendant quelques mois parce que il faut le temps de pouvoir revenir. Pendant l'hiver, tu ne peux pas bouger de là-bas, machin. Pendant toute la période où Rabbi Yaakov Meir il est là-bas, tous les enfants garçons qui vont naître s'appellent Yaakov Meir. En l'honneur de Hacham Yaakov Meir. En vérité, il faut commencer à s'habituer à dire Chacham Yaakov Meir, parce que les Sfaradim, ils disent pas Rav Yaakov Meir, ils disent Chacham Yaakov Meir. Enfin, l'homme chané. Puisque la Shlichut a réussi, ben les Chachabim de Jérusalem, ils disent, bon, hey, t'es pas mal, hein, en Shlichut. Yala, 1885, une deuxième Shlichut. Il s'est reparti. Cette fois, il part au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Mais cette fois, c'est pas pour aller leur prendre de l'argent, c'est tout simplement pour les réveiller à Tzion. Pour les réveiller à revenir. Là aussi, il est accueilli comme un Kvod Melachim. Et là aussi, il va réussir à faire venir avec lui, à revenir à Jérusalem. Je n'ai pas de chiffres à te donner, mais une partie de la communauté là-bas qui ont décidé de suivre Chacham Yaakov Meir. Et donc, c'est en 1889 qu'il revient à Jérusalem. Et là, il va faire quelque chose d'incroyable. Quand il revient en Israël, il passe par Yafo, évidemment, et comme d'habitude, il y a le balagan. Bon, le balagan avec les Ottomans, avec les Arabes, ça c'est classique. Non, non, comme d'habitude, il y a le balagan entre les Juifs et les Juifs. À ce moment-là, il dit, bon, ça ne peut plus continuer comme ça. À Yafo, il va réunir tous les rabbins de Yafo, et il va dire, on ne peut pas continuer comme ça. Et il leur rappelle son épisode du Kotel, et il dit... Yefchar, il annule la communauté séfarade de Yafo et la communauté ashkenaz de Yafo, la fait fusionner et il n'y aura à ce moment-là plus qu'une seule communauté à Yafo. Il réussit à réunir les Sfaradim et les Ashkenazim de Yafo. Et il n'y a plus qu'un seul, une seule communauté, une seule synagogue, un seul Rav à Yafo, grâce à Chacham Yaakov Meir. Alors évidemment, tout le monde voulait que ce soit lui, le rabbin de Yafo, mais il dit, je peux pas, je dois être, je suis Betafkid Rabbani à Jérusalem, mais tout le monde accepte, et il n'y aura effectivement qu'un seul rabbin à Yafo. Le second en titre sera le Rav Avraham Yitzhak à Kohen Cook. Ok ? Quand le Rav Cook est le Rav de Yafo, il n'y a pas d'autre rabbin. C'est lui le rabbin de Yafo. Et il n'y a pas que des Ashkenazim à Yafo. Bekitsour, vous comprenez un petit peu la dimension du bonhomme. Sauf que là, il va prendre une dimension beaucoup plus Eretz israélienne en 1889. 1889, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ben, les amis, il se passe que il va falloir faire quelque chose pour un endroit incroyable à l'extérieur des murailles de Jérusalem, pas très loin. Il y a un endroit, bon, vous allez me dire, pas très important. C'est un champ avec une caverne. Et cette caverne, c'est le tombeau de Shimon HaTzadik. Le problème, c'est que toute la zone appartient à un Ottoman qui a fait mettre des grillages, des barbelés tout autour avec des portes cadenassées pour empêcher les Juifs de venir. Et si les Juifs veulent venir, ils doivent y payer. Et sauf qu'il y avait un esder. Il y avait un accord qui avait été passé 3 générations avant pour que les Juifs puissent aller se recueillir sur les tombes de Jérusalem sans devoir payer quoi que ce soit. Seulement le mec, il a pris possession, Bnia Biltirukit, ce que tu veux, il a fait une construction illégale et personne n'a rien dit. Donc Racham Yaakov Meir, il dit, bon ben c'est pas grave, on va y aller. Vas-y, on va y aller. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ben il y va. Il y va avec une 30aine de Bachourim avec lui. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils arrivent devant la tombe de Shimon HaTzadik, devant la porte, devant les deux portes avec le cadenas, les barbelés, ce que tu veux. À ce moment-là, ils disent, mais comment est-ce qu'on va réussir à enlever le cadenas ? On n'y arrivera pas à enlever le cadenas. On dit, mais l'autre s'arrête à enlever le cadenas. Le problème, c'est pas le cadenas. Le problème, c'est les portes. Et bon, on va enlever les portes. Tu te rappelles Rabbi Jacob ? Ils ont pris le taxi ? Ils ont soulevé le taxi ? Ben, Rabbi Jacob, c'est un copier-coller. C'est un copier-coller de Rabbi Yaakov Meir. Il a pris 15 mecs pour une porte, 15 mecs pour l'autre porte, et ils ont soulevé les portes. Ils les ont sortis de l'essieu, tout simplement, et ils ont porté les portes, et ils ont marché bien devant la mirpessette de l'arabe. Et Rav Yaakov Meir, il s'arrête devant l'arabe et il lui dit, en arabe, il dit, rappelle-toi de Shimshon Agibor, qui a porté les portes de Hazza et qui a été les coincé à Hebron. Alors on va peut-être pas aller jusqu'à Hebron parce que c'est lourd, mais il n'y aura plus jamais de porte ici. Et là, notre voisin musulman va dire, avec cela, vaut mieux pas se prendre la tête avec eux. Ils sont aussi tapés que nous. Donc, puisqu'ils sont aussi tapés que nous, je vais pas. Et puis, et pendant toute la période où Rav Yaakov Meir sera à Jérusalem, tous les Juifs pourront aller à Shimon HaTzadik. Personne ne les en empêchera. Malheureusement, aujourd'hui, c'est redevenu une tannée. Baruch HaShem, depuis quelques années, beaucoup moins, on peut y aller. Mais pendant des années, on pouvait plus y aller. Il faut prendre exemple sur Chacham Yaakov Meir, qui lui-même avait pris exemple sur Shimshon à Gibor. Bon, alors, tout ça, c'est sympa. On parle de choses sympathiques et tout, mais là, il faut qu'on parle du truc que tu l'as pas vu venir. Là, je vais te dire un truc, tu l'as pas vu venir. Je te le dis. Je te le dis, parce qu'on est en 1890, et là, Rav Yaakov Meir, il se dit, j'ai pas fait assez de trucs. Je m'embête. Donc là, il se balance sur un nouveau projet. Il n'est pas tout seul sur le projet, il est avec le Rav Hirschenson et ensemble, ils vont créer un truc. Et si je te disais, évidemment que le mouvement sioniste, Herzl, Ben Gurion, Baruch, ce n'étaient pas des religieux, on est d'accord. Donc c'est évident que quand il y a quelque chose qui est à mettre en avant dans le mythe sioniste, on va pas forcément, si on n'est pas obligé, on va pas forcément mettre en avant un religieux. Si on peut mettre en avant quelqu'un qui n'est pas religieux, c'est mieux. Donc, si je te dis celui qui a ressuscité la langue hébraïque, tu me réponds
Eliezer ben Yehuda.
Nahon. Eliezer ben Yehuda. Nahon, c'est très vrai. Sauf que si tu réfléchis et que tu regardes un tout petit peu la vraie histoire, Eliezer ben Yehuda n'est que le mankal, le mafil, le yoshev roche d'une nouvelle organisation qui vient de se créer, qui s'appelle, qui va s'appeler plus tard à Academia Lelachon à Ivrit, mais qui s'appelle Betsefer Lelachon, mais qui en fait est l'organisation qui s'appelle Safa Berura. Safa Berura, qui est l'organisme qui va ressusciter la langue hébraïque chez les Haredim, chez les Chalutzim. On va se balader de Cheider en Cheider, de Koilel en Koilel, de Betsefer en Betsefer, où personne parle hébreu, et on va apprendre l'hébreu. Eliezer ben Yehuda n'est que le numéro 3 dans l'organisation. Je vous le donne en mille. Qui a créé l'organisation Safa Broura pour la résurrection de la langue hébraïque? Arav Yaakov Meir. Celui qui a ressuscité la langue hébraïque, c'est pas Ben Yehuda. Alors, je dis pas, Ben Yehuda, il a un grand mérite, il a fait le dictionnaire, il en a fait un vrai projet, il en a fait un bébé, est-ce que tu veux? Ok. J'enlève pas le mérite de Ben Yehuda. Mais c'est pas lui qui est à l'origine du programme. À l'origine du programme, Arav Yaakov Meir. C'est lui qui crée sa femme Berura. C'est lui qui va ressusciter la langue hébraïque. Eliezer ben Yehuda ne fait que bosser pour lui. Donc vous avez compris à ce moment-là, c'est terminé. Tout le monde a compris qui était le patron à Jérusalem. Il est tellement le patron à Jérusalem qu'il va se faire tout à fait naturellement élire dans le Vaad HaChachamim shel Yerushalayim. Et en 1906, le Rishon Letzion de'az, alors il faut comprendre, la dimension de Rishon Letzion, c'est quelque chose qui existe depuis le XVIIe siècle. Ok? Mais le terme Rishon Letzion à l'époque, ça veut simplement dire, en fait, c'est ce qui est aujourd'hui le Rav Arashi Asfaradi Mirushalayim. En gros, c'est Achacham Amerkazi Birushalayim. Ok? C'est ça le titre de Rishon Letzion à l'époque. Lorsque le Rishon Letzion d'Eaz, Rav Shaul Eliashar, meurt, eh bien, va être élu à 71 voix sur 80 votants, va être élu à Rav Yaakov Meir pour devenir Arishon Letzion, Chacham HaYerushalmi, le maître des Sfaradim de Jérusalem. Sauf que, ça va créer une guerre mondiale, parce que celui qui s'est présenté contre lui, c'était le fils du Rav Eliashar, Rav Binyamin Eliashar. Et le problème, c'est que dans les mouvements juifs de Jérusalem, eh bien, le Rav Benjamin Eliashar est considéré comme un chamran, comme étant le représentant des Vatikim de Jérusalem, alors que le Rav Meir est considéré comme étant un Mahapran, comme étant Karov Lamaskilim, comme étant quelqu'un de sioniste, Chas Veshalom, Rachmana Litzlan. Et donc, ils font la révolution et ils vont aller porter plainte devant les autorités ottomanes pour destituer le Rav Yaakov Meir. Rav Yaakov Meir ne veut pas que ce soit maintenant les autorités ottomanes qui règlent les problèmes à l'intérieur de la communauté de Jérusalem, donc il décide de laisser sa place. Qu'à cela ne tienne, un an plus tard, il part en Shlichut. Mais cette fois, il ne part pas en Shlichut 5 minutes, il part en Shlichut pendant 10 ans. Il va devenir le rabbin, j'allais dire de la Grèce, de Salonique, mais en fait de la Grèce donc. Il devient le grand rabbin de Salonique, il devient le grand rabbin de tous les Yehoudé Yavan, et il faut comprendre qu'à l'époque, on parle d'une très 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 grosse communauté, d'une plaque tournante du judaïsme, d'une plaque tournante Bichlal de l'Europe, et donc Arav Yaakov Meir revient dans le pays de ses ancêtres en fait. Il revient là où son père il a grandi, il revient là où son grand-père a grandi, il est, évidemment il parle grec, et évidemment, il est immédiatement extrêmement apprécié par tout le monde. Et pendant 10 ans, il va tout simplement remasteriser la communauté. D'abord, il va instituer l'hébreu. Deuxièmement, il va instituer réinstituer, si vous voulez, Yerushalayim. Tout est tourné vers Jérusalem. Et dernière chose, il va tout simplement reconnecter les Juifs de Salonique avec la Torah originelle qui était la leur, Chachmei Sfarad Arishonim. Ma'apecha dans le monde du judaïsme grec, ma'apecha bichlal dans le monde juif, seulement en 1917, il y a la déclaration Balfour, la guerre, la Première Guerre mondiale, la Grèce, elle est en guerre également, et il va y avoir un incendie énorme dû à la guerre et au combat à Salonique. Un incendie énorme qui va brûler, entre autres, la synagogue, le Beth Amidrash, une grande partie du quartier juif, la maison de Rav Yaakov Meir également. Et pour le Rav, il s'agit d'un signe. D'un signe que ça y est, le temps de la Shlichut en exil est terminé. L'exil a brûlé, il faut rentrer. En 1917, il rentre donc à Jérusalem. Zéou, il rentre à la maison. Oh, il a fait mode. Azma Koré Arshav, on est rentré à la maison, mais Azma Koré. Eh bien, lorsqu'il rentre à la maison, il rentre à la maison au même moment où le noble Sir Herbert Samuel devient un natif à Elion chez la mandat britannique en Eretz Israël. Ça y est, ce ne sont plus les Ottomans maintenant, ce sont les Britanniques. Ah, ce sont les Britanniques. Donc il y a peut-être quelque chose à faire, se dit le Rav Yaakov Meir. Et donc, eh bien, il va voir Sir Herbert Samuel, qu'il a invité à venir. Il sait très bien qu'il fait partie, sinon le grand dirigeant des Sfaradim de Jérusalem, il fait partie des grands dirigeants, c'est une évidence. Et donc, eh bien, Sir Herbert Samuel, il a un problème. Il ne comprend pas pourquoi à Jérusalem, quand il faut demander, il veut rassembler les rabbins pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut gérer. Il s'attend à avoir autour de sa table 4, 5 rabbins. Seulement quand il va rassembler les rabbins de Jérusalem, il a autour de sa table une trentaine de rabbins. Il dit, mais c'est pas possible! Une trentaine de rabbins, de dirigeants? Mais vous êtes combien? Vous n'êtes pas nombreux les juifs de Jérusalem. Donc pourquoi vous avez 30 manigim? Maza si pour Azé. Et ils disent, mais qu'est-ce que tu veux? On a un manique pour les comme ça, 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 Matarotse. Tu crois quoi? Tu crois qu'on va laisser diriger les juifs de Hongrie par un rabbin de Lituanie, ma pitom? Tu crois qu'un juif de Tunisie va être accepté d'être dirigé par un juif, un rabbin qui vient de Bagdad? Eh oh! Et là, Saint Robert Samuel, il dit, mais c'est pas possible. Eh mais votre histoire, ça ne marchera pas. À ce moment-là, autour de la table, il y a deux rabbins qui se regardent du coin de l'œil. L'un s'appelle le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Cook et l'autre s'appelle Rav Yaakov Meir. Le Rav Cook, jusqu'alors, était le Rav de Yafo. Et il sait très bien que s'il a été le Rav de Yafo, le Rav unique de Yafo et des Moshavot, c'est parce qu'il y avait quelqu'un avant lui qui avait uni les communautés. Et donc les deux se regardent. Et à ce moment-là, Chacham Yaakov Meir va proposer quelque chose. Il dit, unir complètement le peuple juif, semble-t-il que le Sanhédrin n'a pas encore sa place. Mais ne pas continuer avec le ribouille, le fait qu'on ait 29 000 rabbins, ça c'est peut-être intelligent. Puisque ça y est, on est rentré à la maison. On est rentré en Eretz Israël. Kibbutz Galouyot a commencé. Et donc, eh bien, dans l'histoire juive, se sont détachés deux blocs. Le bloc séfarade et le bloc ashkénaz, dans toutes ses diversités. Il serait donc très intelligent de mettre en place non plus 30 rabbanim, mais deux. Un rabbin ashkénaz et un rabbin séfarade. La première ligne de discours de l'inauguration de la Rabbanout Arachit l'Israël vient d'être créé. Finalement, c'est le Rav Kook qui va créer la Rabbanout Arachit parce que c'est lui qui va avoir le contact le plus permanent avec le mandat britannique. Mais l'idée vient des deux. Et donc, c'est tout naturel que lorsque, en 1921, le grand rabbinat d'Israël est créé, Rabbanout Arachit l'Israël est créée, eh bien, le Rav Kouk est le Rav Arachi l'Israël à Ashkenazi, et Rav Yaakov Meir devient le premier Rishon Netzion. Plus cette fois seulement le Rav de Jérusalem, mais bel et bien un Rav Arachi l'Israël pour tous les Sfaradim. Voilà un petit peu la grandeur du bonhomme. Lorsqu'il deviendra le Rav Arachi d'Israël, il va avoir une péiloute incroyable contre les, enfin, face au mandat britannique. Lorsque les Britanniques sont trop du côté des Arabes, il est le premier à toujours se porter en faux. Il dit, mais c'est pas votre, le mandat que vous avez reçu. Et il montre toujours la médaille. Il a reçu une médaille du roi d'Angleterre. Et il montre sa médaille du roi d'Angleterre et il dit, c'est pas le mandat que vous avez reçu. En 1929, il y a le pogrom de Hebron. Il y a le pogrom de Hebron et après les Meoraot, les Britanniques interdisent aux Juifs de venir habiter à Hebron, c'est trop dangereux. Et le Yishuv à Yehoudi, les dirigeants du Yishuv, Ben Gurion, ils sont assez d'accord. C'est trop dangereux, on ne peut pas protéger Hebron. On n'y arrivera pas. S'il y a des Juifs qui vont à Hebron, ils sont voués à leur perte. Parce que si vous voulez, à Hebron, il n'y a que des villages arabes autour. Comment est-ce qu'on va faire pour protéger la ville si jamais... Non, non, c'est pas possible. Seulement pour Chacham Yaakov Meir, c'est pas possible non plus qu'il n'y ait plus de Juifs à Hebron. Et donc, c'est lui qui va faire un lobby d'abord contre les Anglais et ensuite face aux hommes du Yishuv, en disant qu'il faut ramener les Juifs à Hebron. On ne peut pas laisser Hebron aux mains des Arabes. C'est pas possible. Ça émeut tout le monde, mais bon, les gens, ils restent quand même sur leur position. Donc, Chacham Yaakov Meir fait ce qu'il fait de mieux. Ben, il fait et il pose des questions après. Résultat des courses, en 1930, avec 36 Bachourim, qui vont devenir 36 familles, eh bien, il ramène le Yishuv à Yehoudi Bechevron. C'est lui qui ramène le Yishuv à Yehoudi Bechevron avec les 36 personnes qui l'accompagnent, qui étaient les Megourachim de Hebron, et qui vont permettre de faire comprendre à l'organisation sioniste que En Malasot, on n'oublie pas Hebron. Et il y aura cette implantation juive, finalement, jusqu'au moment où Hebron va être complètement conquis par les Jordaniens, ça c'est une autre histoire, et on ne pourra plus y être. Mais le fait que Hebron doit faire partie de l'agenda juif, de l'agenda de la résurrection du peuple juif en Israël, eh bien, c'est l'héritage, un des héritages de Chacham Yaakov Meir. Rabotai, lorsqu'on regarde un petit peu ses écrits, on a perdu énormément dans l'incendie de Salonique. Il avait écrit des commentaires sur le Shulchan Aruch, sur le Talmud, qui ont tous été brûlés. Mais il a réécrit d'autres choses après. Et parmi les choses qu'il écrit, il dit que peut-être l'une des choses les plus dommages, c'est que les manigim du peuple juif, les manigim rouchanim, les rabbanim du peuple juif, ne sont pas assez bekiim dans les chochmot ritsoniot. Et il dit que c'est très dommage que les rabbins ne sachent pas assez, ne soient pas assez au fait des sciences, parce que eh bien, leur enseignement de la Torah ne peut donc pas être entier. Car Akadosh Baruch Hu se dévoile Bekol Mashala, Malchuto Bakol Mashala, et donc Malchuto Lorak Bebet Amidrash. Il serait donc très important de faire développer une nouvelle génération de Talmidei Chachamim, qui sont Talmidei Chachamim en Torah, mais qui sont également Bekiim Bekol Chochmot Haolam. Il semblerait que la génération qui est la nôtre, eh bien, ait répondu à l'attente de Chacham Yaakov Meir. Il meurt en 1939. Je dirais qu'il n'a pas la chance de voir la création de l'État d'Israël, mais il a la chance de ne pas voir non plus la Shoah. Chacham Yaakov Meir, ben comme on a dit, sera le premier Rishon Letzion. Après lui, on aura le Rav Ben Tzion Chayuziel, et ensuite, on va avoir, comme on a dit, le Rav Yitzhak Nissim. Et ensuite, on aura, on va pas tous les faire, Avodi Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Bakshi Doron, le Rav Shlomo Amar et le Rav Yitzhak Yosef. Il est le premier à être à Rishon l'Etzion, à être celui qui va réunir, du moins commencer la réunion entre les Sfaradim et les Ashkenazim, réunion du peuple juif, avec cette image qu'il avait quand il avait 8 ans, que ce n'est que par cette union qu'on arrive à avoir une ne'imut dans la tfila, une tfila qui arrive grâce à l'union de tous les nusachim, de tous les accents, à monter ma'ala, ma'ala. Voilà quelle était l'influence de celui qui vient de la Grèce pour devenir la grâce d'Israël. Chazak ou Baruch, et peut-être, qui sait, la semaine prochaine, un Marocain. Chazak ou Baruch à tout le monde, Erev Tov et Koulam.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Shavua Tov.
Shavua Tov et Koulam.